Une vie, une œuvre, Édouard Manet, 1832, Paris, 1883, Paris. En cette journée anniversaire pour le musée d'Orsay, nous avons fait le choix d'accompagner l'événement avec un portrait d'Édouard Manet. Il fut un élève moyen, plutôt insolent, ornant ses cahiers de caricatures devant son camarade de classe, Antonin Proust. Refusé à l'école navale, à 16 ans, il embarque comme apprenti pilote pour Rio de Janeiro, où il sera touché et révolté par un marché d'esclaves. Il échoue encore à l'école navale, et en 1849, il peut assumer son choix de la peinture et rejoint l'atelier de Thomas Couture. Il visite les musées en Hollande, Italie, au Luxembourg, en Espagne. Ses tableaux s'en ressentent et c'est son chanteur espagnol qui sera admis au salon. C'est le début du succès. Menant une vie de dandy, il épouse Suzanne Lenoff en 1863. Durant le siège de Paris, en 1870, il lui adressera des lettres très émouvantes. Il aura peint durant 20 ans. Et en 1833, Antonin Proust, Émile Zola, Claude Monet l'accompagne au cimetière de Passy. Souvent éreinté par la critique en son temps, ce sont les peintres qui l'ont défendu et aujourd'hui encore, ce sont eux qui en parlent le mieux. Pascal Charpentier signe avec Claude Giovanetti « Une vie, une œuvre », Édouard Manet.
Regardez quelques images.
Quelques peintures.
Qu'est-ce que vous avez envie de regarder chez Manet?
Son nom.
Son nom.
Oh, parce que les peintures, on va pas... Je sais pas. Faites voir. Hein. C'est l'histoire des points blancs dans le bar des Folies Bergères aussi. Ça ressemble aux points blancs qu'il y a dans les films. Quand on change de bobine, il y a des points blancs dans le coin supérieur gauche. Et chaque fois, j'ai pensé à ça. C'est-à-dire, on change de séquence. Et dans les films en noir et blanc, ça se voit très bien parce que ça change d'éclairage. Manet, il est un peu là. Je disais que Velázquez, c'était l'inventeur de la photographie et Manet, c'était l'inventeur du cinéma. Mais c'est difficile à expliquer, mais je crois que c'est un peu ça.
Peinture nue, Manet.
C'est la peinture nue et c'est peut-être encore plus. C'est vrai qu'il y a à la fois le sujet et la peinture. Peut-être aussi qu'à partir de Manet, le véritable sujet de la peinture, c'est la peinture, mais c'est aussi le peintre.
Oui.
C'est-à-dire l'auteur.
Édouard Manet ou la peinture nue, 1832-1883.
Et ça, un bar aux Folies Bergères qui, je trouve, peut-être, c'est le tableau le plus curieux.
Pourquoi, Adrienne Farb?
Peut-être sa façon de peindre les femmes. Les femmes ont toujours l'air soit très francs, comme s'ils nous obligent de le regarder, c'est une sorte de confrontation, en même temps très lointain, très triste, comme s'ils ne sont pas là en même temps. Mais aussi, c'est une sorte de géométrie très rigide. Il y a beaucoup de plans. Ça refuse aussi d'aller en profondeur, ça reste sur la surface. Il y a des choses qui ne peuvent pas exister, comme le fait qu'on le regarde en face et en même temps on voit son reflet, on voit le reflet de l'homme à droite, et alors c'est nous en même temps, mais nous on est juste en droit, ça ne peut pas exister. c'est quelque chose de très symbolique en même temps.
Il y a plein de choses qui sont dites dans le même espace alors qu'elles ne sont pas possibles en
oui, qui se nient en même temps, qui se nient. Ou même le fait qu'ils aient bouté de champagne, là, ils ne sont pas encore ouverts. En même temps, dans le reflet, dans la glace, ils sont ouverts.
Et la foule derrière, les gens.
Mm-hmm. Oui, parce que c'est comme derrière nous. Il nous oblige de nous situer dans ce tableau. En même temps, regarde le reflet, ce jeu de miroir où on ne peut pas nous situer. Mais et aussi la façon de peindre les gens derrière, c'était vite fait, ou rien nous attrape presque. Tout reste assez flou.
Le tableau devient de plus en plus indépendant, de plus en plus autonome. Et il est de moins en moins le reflet, un reflet.
Bernard Zurcher.
Et c'est là encore que Manet se détache beaucoup des impressionnistes, et que pour les autres, le reflet, c'est presque l'emblème de l'impressionnisme. Et chez Manet, les reflets sont toujours aussi faux. Je veux dire, quand on voit le dernier tableau très important de sa vie, qui est le bar aux Folies Bergères, la serveuse, le reflet de la serveuse est totalement faux. Elle ne se reflète pas. Elle est frontale, et puis il y a son reflet qui est latéral et qui regarde. Enfin, c'est comme si elle s'était dédoublée. Et ça, c'est des choses très étonnantes aussi. Et on continue dans l'invraisemblance, parce que dans le bar, fameux Folies Bergères, on a des bouteilles, on a des tas de choses, mais qui ne devraient pas être comme ça. Les bouteilles de champagne sont au frais normalement, on les met pas comme ça, tiédi. Enfin, il y a des tas de choses bizarres. Il y a comme une espèce de folie. Les personnages sont murés. Le personnage devient signe, devient un signe pour lui-même. Et donc une juxtaposition de signes, et là aussi c'est extrêmement moderne et novateur, une juxtaposition de signes qui constitue un tableau.
Vous voyez bien de toute façon que c'est toujours extrêmement simple, quoi.
Pourquoi ? Qu'est-ce que vous regardez là ?
La gare Saint-Lazare. Il y a une clarté comme ça chez Manet aussi. Il y a une très grande clarté.
Jean-Michel Alberola.
Quand Bataille dit qu'après avoir lu Proust, il ne voit pas très bien comment il pourrait écrire d'une autre manière que ça. C'est extrêmement clair. Manet, c'est extrêmement clair. Je pense que la peinture, de toute façon, c'est toujours une chose très claire. C'est assez limpide, c'est assez simple. C'est juste un problème de... Ce qui embête les gens dans l'art contemporain, c'est la composition, c'est tout. Ce qui les embête, c'est les petits... Vous voyez, quand il fait la serveuse de Bock, il y a le Bock qui est à côté du bras à gauche de la personne qui fume la pipe, qui va correspondre aux deux Bocks que la serveuse tient, et ça va remonter à la petite ouverture qui est en haut. Eh bien, tout ça, là, tout ça, c'est des histoires de cuisine. On retrouve ça chez Tintoret, on retrouve ça partout. Et ça, c'est ce qui embête beaucoup les artistes contemporains. C'est qu'on soit encore dans des histoires, on va mettre un petit rouge en bas, parce que il est extrêmement utile, le petit rouge en bas. Parce qu'en réalité, à quoi il correspond, le petit rouge en bas ? Il correspond aux doigts des pieds droits. Parce que si la peinture est un corps, on peut dire qu'elle a deux mains, deux pieds, deux jambes, des oreilles, etc. Donc il faut tout mettre, il faut mettre l'oreille, il faut mettre tout ça. Et Manet a bien compris. Et Manet, de toute façon, c'est pas qu'il a bien compris, c'est qu'il continue, de toute façon. Il continue tout ça.
Au musée d'Orsay, avec Henri Cueco.
On va voir Manet. On va voir Monsieur Manet.
Quelle est la première chose que vous regardez dans cette toile ? Chaque fois, ça accroche différemment ?
Ben dans chaque toile, l'entrée est différente. C'est vrai. Alors,
dans le balcon,
là, ce qui
m'est...
Bon,
C'est-à-dire avant de passer par le balcon. Mais c'est peut-être ça qui est intéressant, c'est que d'habitude, le tableau est l'espace-fenêtre. C'est-à-dire que c'est la fenêtre dans l'autre sens. Et là, c'est l'anti-fenêtre. C'est déjà étrange. Mais ce que je vois immédiatement, et qui, je suis sûr, est une des clés de Manet, je le vois ailleurs, c'est que il utilise beaucoup le blanc et le noir, d'abord, pour structurer complètement son tableau. La deuxième chose, c'est le rythme d'exécution. Ça me fait beaucoup penser à Franz Hals, finalement. C'est-à-dire que je crois que c'est un homme qui exécute physiquement le tableau. C'est-à-dire, il y a une présence physique. Si on veut beaucoup plus loin, on trouvera ça sous sa forme absolue chez Pollock. Enfin, c'est-à-dire la présence du corps, l'introduction du corps dans la peinture. Et là, il y est déjà.
D'un journal.
Oui, ce qui est très simple, trois aplats au fond, les personnages, les spectateurs et les morts, les moribonds, qui ressemblent d'ailleurs aux tueurs.
Bernard Noël.
Le plus intriguant, c'est le personnage qui ne fait rien. Puisqu'il y a le groupe des soldats, enfin le peloton d'exécution, les exécutés. Enfin, tout ça, ça fonctionne. Enfin, c'est l'image de journal, au fond. Et puis à l'arrière-plan, cet homme qui charge son fusil.
Ah, c'est le témoin.
Oui. Oui, j'imagine plutôt que c'est le coup de grâce qu'il prépare. Je ne sais pas si les couleurs sont justes. Ce qui est frappant, ce sont les aplats. Où là encore, Manet annonce tout ce qui va suivre d'ailleurs très vite. Gauguin. Arroyo.
Vous pensez qu'il a été dans l'arène, Manet, pour peindre cette corrida, Eduardo Arroyo?
Ben écoutez, si vous voulez, dans ces tableaux que nous voyons, le combat des taureaux, là, c'est un tableau très très beau, très touchant, mais c'est un tableau où je crois que lui, il a dû le peindre, vraisemblablement, en regardant Goya, et puis en plus en regardant certains autres lithographe de l'époque. Vous savez, il y a une grande imaginerie assez importante en Espagne à cette époque-là sur la course des taureaux. La course des taureaux est très reproduite un peu partout, dans les feuilles, dans les illustrations, dans les lithographies. Et donc je crois que plutôt Manet a dû regarder ça, mais il n'a pas vécu.
C'est un regard touristique ? Aimablement touristique?
Non, pas du tout, parce que vous savez qu'on recommandait à l'époque aux touristes qui se rendaient en Espagne à cette époque de faire du testament, etc. etc. Donc, il faut dire qu'il est allé voir Velázquez, surtout. Voilà pourquoi il est allé. Et donc, il a réussi à y arriver et à avaler l'huile d'olive espagnole et à souffrir l'inconfort pour cette passion, certainement, pour cette intuition énorme qu'il a eue de voir. Il est allé en pérégrination pour aller voir un autre peintre.
Ben, tu sais, Velázquez, hein, c'est Velázquez. Hein. Il va attraper, il va aller chercher Velázquez là-bas au fond, quoi, de l'Espagne. Il va revenir avec Velázquez. Et c'est simplement... Oui, il continue. C'est quelqu'un qui continue. Je pense que les bons écrivains, les bons cinéastes, les bons... C'est des gens qui continuent. Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de... Continue. Il faut continuer une chose très très vieille, quoi.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Manet, Jean-Michel Alberola?
Ben une chose naturelle, non? En peignant, on trouve des gens comme ça sur la route, donc je sais pas. Peut-être en étant comme je suis de sang espagnol, de toute façon, donc on tombe automatiquement sur Manet, puisque la peinture française est constituée des autres, donc on tombe sur Manet, obligatoirement, quoi. Il y aurait les frères Lenain, puis Manet, voilà, ça tombe là-dessus.
De Valence.
Ah oui, Lola de Valencia, oui, ça c'est un merveilleux tableau. Un tableau très très beau. C'est un tableau très beau parce que c'est toujours la même chose apprise, c'est Velázquez. Vous savez, on parle que la couleur de l'Espagne, c'est le rouge et le noir. Peut-être par cet imaginaire de la tauromachie, la moulette et le taureau noir. Peut-être aussi... dans l'histoire récente de l'Espagne, la guerre civile, les couleurs de la guerre civile, peut-être le rouge et le noir, toujours ces deux couleurs très antagoniques, qui le sont moins peut-être dans la culture française, qui sont, même si Stendhal les applique aussi peut-être en contradiction, n'est-ce pas? Je pense que Manet a introduit une couleur qui pour moi est les couleurs de l'Espagne, peut-être plus que le rouge et le noir, c'est le rose et le noir. Et c'est le rose et le noir, le rouge chair ou le rose un peu plus rose, le rouge moins jaune et les rouges moins rouges, si vous voulez, ces tons précis que je ne pourrais pas décrire, que je pourrais le faire sur la palette, mais que je ne pourrais pas décrire comme ça en parlant avec vous. Je crois que si on l'ajoute au noir, ça ferait les couleurs peut-être de l'Espagne, ça serait le rose et le noir et pas le rouge et le noir.
On voit par exemple dans un tableau comme Lola de Valence, comment au fond Manet procède. Au fond, Lola, c'est le premier tableau important de Manet. Et il fait passage, je dirais, au niveau de cette modernité, au niveau, en même temps, de cette histoire de déguisement, cette histoire de comment passer de la peinture des maîtres à sa propre peinture. À l'époque, on ne peut pas peindre sans le secours du modelé. On appelait le modelé. C'est un modelé, c'était faire tourner les objets. Ça, c'est un truc qui a marqué vraiment tout le monde. Même Cézanne a continué à faire tourner d'une façon différente les objets. Il fallait absolument rendre un modelé extraordinaire pour donner l'illusion de la vérité. De la réalité. À une époque, n'oublions pas, où la photographie commence à s'imposer fortement et où la concurrence entre la photographie et la peinture était très importante. Bon. Et dans Lola de Valence, le contraste entre la main de Lola et la robe sur laquelle elle est posée est très significatif, puisque la main est faite sur un modelé absolument irréprochable du point de vue technique, et tourne, et sculptural, etc., alors que la robe est, comme on disait à l'époque, peinte par tache. À l'époque, on ne parlait pas d'impressionnisme, évidemment, on disait il peint par tache. Et ces taches de couleur sont une force, une audace terrible. Et alors le contraste des deux permettait de faire passer, justement, la chose. C'est-à-dire qu'au fond, elle faisait passer la chose sous l'angle du décoratif. On disait, mais en fait, c'est une espèce d'effet, vraiment un nez un peu osé, comme ça. Mais dans la mesure où la main était là, la main était présente, la main était encore totalement monolithique.
Académique. Après, elle va,
académique.
À l'ingre.
Tout à fait, à l'ingre. Il a cette présence du vécu par le rendu illusionniste. Et il va chercher à passer à un autre vécu, qui serait le vécu de la main qui signe, de la main qui écrit, c'est-à-dire d'une écriture visible, de son écriture.
Suzanne, qui est cette Suzanne? Vous dites, il y a traversée de Manet par Suzanne.
La traversée de Manet par Suzanne?
Oui.
Suzanne Lenoff.
C'était la femme de Manet.
Oui. Donc, comme je travaillais à l'époque autour de Suzanne et les Vieillards, c'est simplement un prénom pour un autre, quoi, comme je suis tout le temps dans l'échange.
Jean-Michel Alberola.
Je suis du côté de Saint-Mathieu, donc je suis un agent de change. Donc c'est Suzanne Lenoff contre ma Suzanne, quoi. Ça passe naturellement, de toute façon, tout ça.
Manet aussi était un agent de change, finalement. Il glissait, il faisait glisser les
citations. Le problème de Manet, c'est ça, c'est faire passer... Enfin, à l'époque où il arrive, il faut qu'il transforme la société dans laquelle il se place par rapport à la peinture qui le porte, quoi. Alors, je pense que Manet, comme Cézanne, était oui, un grand agent de change, c'est-à-dire qu'il a su faire passer la peinture à la vitesse supérieure, quoi. Mais c'est une des dernières vitesses supérieures qui soit, quoi. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il indique quand même un ralentissement avec... il va à la fois très vite, hein, il peint à la fois très très vite, hein, et puis en même temps, il arrive à continuer la très lente vitesse de la peinture occidentale. Donc il y a, entre les deux vitesses, une catastrophe, et s'il y a une catastrophe, il y a peinture de toute façon. Parce que s'il n'y a pas de catastrophe, il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas d'art, il n'y a rien. Il faut qu'il y ait une catastrophe. Il faut qu'il y ait une collision, quoi, entre deux mondes. Le monde d'où l'on vient et le monde dans lequel nous sommes placés. Quoi. Et Manet arrive très bien à faire le lien de ça.
C'est un jalon, Manet, entre ces deux mondes dont vous parlez.
Oui, c'est un jalon dans l'ensemble de la peinture occidentale, c'est un jalon. Parce que il comprend très très vite que la peinture peut-être disparaître. Quoi. Ça, c'est l'histoire de Mallarmé et tout ça, quoi, la décrépitude, tout ça. Mais il comprend très très bien ça, quoi, tout de suite. Hein. Donc, il va chercher, dans la peinture occidentale, des moments où la vitesse est extrêmement lente. Hein. Donc, il part en Espagne pour Goya, puis il tombe sur Velázquez, parce que Velázquez est plus lent que Goya, quoi. Puis il s'aperçoit que Goya, de toute façon, c'est du côté du pathologique, alors que Velázquez est dans une pureté de position générale qui est extrêmement belle, quoi. Il comprend tout de suite ça. Il tombe sur Velázquez. Il savait pas que Velázquez était comme ça. Et chez Velázquez, il y a aussi cette histoire de vitesse, quoi. Mais parce que Velázquez était protégé. Manet n'est pas protégé. C'est pour ça que Bataille s'intéresse beaucoup à Manet, je pense. C'est parce que Manet est dans la vulnérabilité, de l'individu par rapport à la société occidentale qui monte, quoi. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus coupable, beaucoup plus fautif immédiatement. Velázquez n'est pas fautif, il est protégé par la cour du roi. Donc Manet, c'est plus compliqué, quoi. Manet, il va dans les bars, il va dans les rues. Il est beaucoup plus vulnérable par l'extérieur. Et on sent très bien chez Manet que l'extérieur rentre tout le temps. Parce que Manet, c'est du bruit, de toute façon. Beaucoup de bruit.
Du bruit ou du silence, hein?
Non, c'est du bruit, Manet, c'est du bruit. C'est le bruit que fait la société industrielle. C'est le bruit que fait Manet, c'est le bruit que fait le capitalisme. C'est plus que naissant, c'est qui commence à triompher. Manet, c'est ça pour moi.
Elle est très très moderne, cette ligne, ce panneau qui sépare
ça,
la chambre.
Cézanne va en user, en abuser de ces lignes, mais c'est ce qui donne au fond toute sa fonction de peinture, en tant que peinture. C'est-à-dire, en effet, ça devient un élément qui renvoie la peinture vers ce qu'elle est, c'est-à-dire vers une abstraction. Il y a aussi la petite fenêtre, il y a un petit élément de rideau qui est une petite... Je verrais ça comme dans... de la croix, il y a une espèce d'ironie, parce que le rideau, on l'a vu souvent dans la peinture, c'est un artifice obligé, en quelque sorte, de la scène érotique qu'on va dévoiler. Là, le rideau, il est parti déjà, il a disparu. C'est-à-dire qu'il y a des petits clins d'œil à la peinture telle qu'on l'attend. Et je pense que ces clins d'œil-là sont sans doute aussi à l'origine des scandales. C'est-à-dire, tiens, une peinture qu'on connaît au fond, une femme désirable qu'on nous dévoile. Or, la femme n'est pas la beauté qu'on attend, le rideau est un petit peu minable, le lit est banal, il est des faits, les draps sont pas extraordinaires, donc la situation est traumatisante par rapport à ce qu'on assigne à la peinture comme fonction.
C'est le détournement intégral. Hein.
C'est un détournement, oui. Mais il n'y a scandale que parce que le détournement est posé en référence à ce qu'on attend et à ce qu'on se connaît de la peinture, et aussi parce que le peintre sait faire. Si le peintre ne sait pas faire, ça ne détourne rien.
Il y a deux nus qu'on peut comparer, si on veut, à l'Olympia. L'Olympia, et en même temps, il y a la Vénus de Cabanel.
Bernard Surcher.
La Vénus de Cabanel, qui a été immédiatement achetée par Napoléon III, pour sa collection personnelle. La Vénus de Cabanel, au fond, c'est une image érotique, banale. Un peu égrillarde, si on veut, avec ses petits angelots, sous des dehors sucrés, comme ça.
Avec une vague.
Une petite vague, oui. Enfin, il y a tous les éléments académiques, en fait, qui sont mis en situation. Et là, c'est là que Manet est quand même assez fort. C'est que lui aussi, il est dans le décor. Parce que Manet, finalement, il peint jamais dans la nature. Il peint toujours à l'atelier. Et ça, c'est absolument fondamental. Ça fonde totalement sa peinture. C'est-à-dire qu'il se bat pied à pied sur le terrain des académiques, de ceux qui tiennent le haut du pavé. Parce que y a deux choses, au fond. Les impressionnistes en gros, Monet, Pissarro, etc. Les impressionnistes de chez Nadar. Hein. Bon. Encore une fois, pareil, Manet refuse de participer à l'exposition des impressionnistes patentés autour de Monet. Il refuse d'aller au boulevard des Capucines chez Nadar, d'exposer là. Il veut exposer au salon. Il n'arrête pas de faire des envois au salon. Il veut triompher sur ceux qui tiennent le haut du pavé. Il veut réussir. Bon, et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que justement, il veut réussir, donc il fait comme ceux qui réussissent. C'est-à-dire qu'il va peindre dans des décors, que ça soit l'Olympia, que ça soit le déjeuner sur l'herbe. On est dans un décor, on est une fausse nature. Et on est dans le même décor dans lequel les photographes faisaient poser des modèles pour faire des nus égrillards, si j'ose dire, des premières photos porno, si on veut dire. Et à l'atelier, les peintres académiques, que ce soit Cabanel, que ce soit Bonnat, etc., ils avaient d'immenses ateliers avec des tas d'accessoires. Et quand Manet fait poser l'Olympia, son Olympia, elle est aussi parée. Elle est nue, bien entendu, mais elle a ses bracelets. Hein, et alors les gens disent, c'est une putain, c'est une prostituée. C'est ça. C'est choquant parce qu'elle n'a pas la douceur rachnéenne de la Vénus de Cabanel, mythologique. Oui, elle n'a pas les accessoires mythologiques, disons, qu'il faut. Elle est brutale, elle est primitive. Et finalement, cette espèce de côté primitif, on va le retrouver plus tard, nettement plus tard, évidemment, chez Gauguin. Oui.
Quelle belle tâche, disait Cézanne, à propos de l'Olympia.
Au pluriel, c'est ça, les belles tâches.
Au singulier, je crois.
Ouais, une seule tâche.
Une seule tâche. Ouais.
C'est pas ce qu'on appelle une belle femme pouvant servir de modèle, comme on en a vu souvent dans la peinture. Donc il n'y a pas d'échappée possible, il n'y a pas de transformation possible de l'œuvre par le sublime, l'allégorie, tout ce que l'aristocratie ou la bourgeoisie jusqu'à ce moment-là peut attendre de sublimation d'une peinture, de transformation de la vision du réel. Là, c'est rabattu sur une forme de réalité irrécupérable.
C'est la peinture nue.
Ça n'est même pas le sujet nu, c'est la peinture nue, en effet. C'est la peinture. C'est le geste de peindre qui est privilégié, le plaisir à peindre. Et ce qui est la grande force de la peinture, c'est le rapport de deux tons. Enfin, ce que disait peut-être Cézanne était ça, le rapport de deux taches. Là, cette extraordinaire tache claire sur le fond sombre. Et dans le détail, après, les gris des coussins par rapport au jaune discret du corps. Et chaque fois qu'il a posé le ton va trouver un épanouissement discret, mais dans un ton plus fort, comme le nœud rose qui exalte un petit peu ce corps, qui lui donne de la chair en quelque sorte, qu'il lui enlève. On a l'impression qu'il a joué avec la conscience que la peinture devait à la fois montrer et priver. Et cette idée de priver le regard en l'exaltant. C'est donc pas une peinture qui réalise un plaisir, mais qui amorce un désir. C'est une peinture où on est incité à désirer quelque chose et on n'est pas comblé. C'est-à-dire, et ça, je crois que c'est très moderne. Cette idée que l'art est toujours le deuil de quelque chose, quoi. C'est-à-dire, ne peut pas s'accomplir. Par définition, d'ailleurs, la peinture a un non-accomplissement. Il n'y a que deux dimensions. Et la troisième, eh bien, la peinture en est infirme. Et ce qu'il y a aussi qui est frappant, c'est que c'est sur la limite presque du mal peint. C'est-à-dire, il y a une provocation. C'est pour un peintre, c'est extraordinairement bien peint. Mais si on pense à ce qu'étaient les attentes de la peinture à l'époque, c'est-à-dire suggérer les objets, eh bien là, rien n'est traité à fond sur ce que j'appelle le rendu d'une pièce anatomique ou du tissu, mais tout est peint. Et il n'y a jamais d'abdication, de baisse du rythme ou du souffle. C'est peint dans le même geste.
C'est la peinture nue, Manin ?
Ben, la peinture, c'est toujours nue. De toute façon, c'est simple. Hein. C'est très simple. Hein. Quand c'est un bon peintre, c'est toujours simple. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre chose. Quand il fait, je sais pas moi, le déjeuner ou je sais pas, le balcon ou la femme au perroquet ou des choses comme ça. Comment elle s'appelle ? Pas la femme au perroquet. Nana, tout ça.
Nana.
C'est toujours comme c'est. C'est toujours comme c'est, Manet. C'est comme ça. Manet dit la peinture, c'est comme ça. Comme Velázquez dit la peinture, c'est comme ça. Mais il annonce la fracture. Hein. La fracture, elle va venir avec l'alpiniste chirurgien, là, Cézanne, quoi. Mais il n'est pas là, quoi. Manet n'est pas là encore. Manet, il a cette... Il a cette préciosité française, qui est, de toute façon, qui est unique au monde, je pense. Il a cette intelligence, il est du côté des mousquetaires, Manet. Du côté du style, de l'esprit, quoi. Pas d'élégance comme ça, absolue. Parce que, de toute façon, la peinture française, elle n'a pas d'identité, de toute façon. C'est une peinture qui est très difficile à cerner, parce que elle est influencée par tout le monde.
C'est un mélange.
Oui, c'est le mélange et en même temps, c'est la mesure de ce mélange. Et Manet, c'est la mesure de ce mélange. Alors, ce qui est curieux, c'est que Manet peut donner aussi bien Picasso que Braque. Hein, et Braque et Picasso, c'est la Terre et la Lune, quoi. C'est cet écart. Manet donne Derain. Manet donne Derain, parce que Derain... c'est peut-être le peintre le plus tordu qui soit, quoi, dans l'histoire de la peinture française, parce que il fait une somme, quoi. Manet fait une somme. Manet va prendre un peu aux Italiens, il va prendre un peu aux Espagnols, il va prendre beaucoup à la peinture française qui est constituée des autres. Donc il arrive à faire une espèce de mixage généralisé comme ça de toute la peinture, et puis il le ressort d'une manière extrêmement lucide. Par rapport au monde qu'il voit. Il ne change pas le monde qu'il voit, Manet. C'est ça qui est assez beau. Il ne cherche pas à le changer. Peut-être que la nudité, elle est là, quoi. Dès l'instant où il dit c'est comme ça, Il y a les chapeaux, il y a les robes, il y a les choses comme ça. Et ça tient, ça vieillit pas, quoi. C'est difficile, ça. Il y a des cinéastes qui... Godard le fait assez bien. Godard, quand Anna Karina est habillée en robe 1960, en 1990 ou en l'an 3000, ça sera toujours quelque chose, ça ne vieillit pas. Manet comme ça tout le temps. Il fait la peinture la plus moderne qui soit.
Moderne dans quel sens?
Ben moderne, c'est la peinture la plus juste. C'est juste. C'est par rapport à son temps, c'est juste. Mais on le voit pas tout de suite. On le voit pas pendant qu'on peint. On voit ça 100 ans après que c'est juste. Velázquez, c'est juste. Parce que de toute façon, dès qu'on fait un tableau, on est dans un autre temps. Donc, il faut être juste par rapport au temps de la peinture et juste par rapport à ce que nous vivons, quoi. C'est-à-dire que Manet, c'est... Enfin, Courbet aide beaucoup Manet. Courbet. Je pense que Courbet aide beaucoup Manet. Mais Manet dit, le monde, c'est à peu près comme ça. C'est constitué à peu près comme ça. Et j'aime beaucoup ça, parce que... Je pense, c'est là où l'intelligence de Manet est extraordinaire, c'est que quand on sortait de l'atelier de Manet, on voyait que le monde était à peu près comme on l'avait vu dans les peintures. Mais pas simplement au niveau de la représentation de ce monde, au niveau de la manière dont ce monde était représenté. Donc c'est ça qui fait en principe un grand peintre, quoi. Je pense que c'est ça, quoi.
Vous avez fait un film, La vie de Manet. Pourquoi vous avez pris le titre, La vie?
C'est un documentaire qui se termine mal, c'est-à-dire qui perd le côté documentaire, quoi. Ça commence comme un documentaire, on s'est dit tiens, on va voir un documentaire, et puis ça vire mal, quoi. Comme tout ce que je fais, de toute façon, ça vire mal. On s'est dit, on va voir ça, et puis c'est autre chose qu'on voit tout d'un coup. Oui, c'est un film sur la disparition des histoires dans la peinture, quoi. Courbet et Manet, parce qu'on peut pas tellement les dissocier dans l'annonce qu'ils proposent, quoi, les deux, ils disent que les histoires, c'est fini, quoi. Il faut peindre le monde, quoi, tel qu'il est, quoi. Ça va être plus difficile. C'est pour ça que les peintres, je pense, c'est assez compliqué à faire, ça, à peindre le monde tel qu'il est. Donc on va chercher des histoires personnelles tout d'un coup. Il y a les histoires mythologiques, religieuses, etc. Dans la peinture occidentale, puis Manet arrive et dit non, c'est pas, on peut peindre simplement la rue, ça devient suffisamment éloquent. Mais c'est très dur à tenir, ça. C'est pour ça que Manet intéresse beaucoup Bataille, parce que c'est presque impossible, hein, de voir le monde tel qu'il est, quoi. Parce qu'on perd la tête. Donc, les peintres après Manet vont essayer de se trouver des histoires personnelles, quoi. Ils vont faire ça avec des mythologies personnelles.
Il y a aussi l'histoire du monde, je sais pas, le Maximilien, l'exécution de Maximilien.
Oui, mais c'est dans son temps, tout le temps. C'est dans son temps. Il y a aussi l'évasion de Rochefort ou quelque chose comme ça. C'est Manet qui lit le journal, ça. Ça montre bien que Manet, de toute façon, quand il fait l'Olympia ou quand il fait... Tout ça, c'est du même ordre, quoi. C'est toujours ce qu'il y a autour de lui. Mais ce qu'il y a autour de lui, ça peut être des êtres ou des nouvelles. Ça n'a aucune importance, il n'y a pas de différence. C'est le temps qu'il vit, quoi. Il peint le temps qu'il vit. Et c'est pour ça que ce qui est assez troublant dans la peinture de Manet, c'est que on sent très bien qu'il est tout à fait mortel. Il y a des peintres, on sent pas ça. Il y a des peintres qui peignent en pensant qu'ils vont durer 4000 ans. Manet, non. Manet, c'est tout de suite. Hein. Tout de suite. Donc il y a cette précision comme ça de l'instant qui fait que c'est à la fois intenable et puis à la fois absolument merveilleux, quoi. Il n'est pas... c'est pas quelqu'un d'isolé, quoi, c'est tout. Il n'est jamais isolé, quoi. Il y a des peintres qui sont isolés, il y a des peintres... C'est une espèce de monstre, des tueurs, quoi. Manet n'est pas un tueur. Il n'est pas tueur, ce n'est pas un tueur de l'autre. Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Ce qui est étrange, c'est au fond le côté grand bourgeois qui s'encanaille dans la peinture. Plutôt, il a l'air d'encanailler la peinture, alors qu'en réalité, il la purifie.
Il la simplifie,
il la purifie donc. Et au fond, c'est ce qui dérange.
Le bal masqué à l'opéra, il y a ces jambes en haut là qui sont par devant la barrière, quoi. C'est une chose incroyable, ça. Il n'est pas obligé de les mettre. S'il les met, c'est qu'il y a une raison au niveau du récit, comme ça, de ce qu'il pense, hein, et en même temps au niveau du tableau. Manet est toujours là-dedans, quoi. Il compose aussi, il compose. Puis c'est les hommes et les femmes, Manet, tout le temps. C'est un peu comme Godard, finalement. C'est les hommes et les femmes. On dit que Godard sait bien filmer les femmes. Manet, il sait bien filmer les... Enfin, peindre les hommes et les femmes, je pense. Manet est dans cette histoire-là. Il comprend très vite que la société va changer le rapport entre les hommes et les femmes, de toute façon. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes chez Manet. C'est des gens qui sont là, qui se touchent pas, qui se... C'est assez curieux comme histoire.
Il y a le bal masqué aussi, où on voit un peu le monde de Manet. Il y a des jambes de danseuses aussi un peu partout, coupées.
Que le hasard met juste en face, c'est Berthe Morisot qui a un des portraits les plus terribles, me semble-t-il, qui soit parce que il provoque une hésitation entre l'aspect du personnage. Enfin, très respectable, comme ça, beau. Enfin, quelqu'un de bien, quoi. Et puis, ce que suggère l'arrière-plan lumineux et la manière dont il met en avant, dont il repousse, au fond, justement cette bienséance en dénonçant tout un... Enfin, les contours, les plis, les bosses, les aspérités du visage, les bouillonnées de la dentelle, qui semblent dénoncer dans cet aspect quelque chose d'autre, enfin de beaucoup plus sombre, plus romantique, peut-être plus romantique en effet là, mais présage le noir dont vous parliez en rappelant Bataille. Et il me semble qu'il est particulièrement présent dans ce portrait, alors que Berthe Morisot est la belle-sœur et la... avec qui il a d'ailleurs un rapport étrange.
Enfin, le peintre aussi.
Oui, c'est un peintre aussi, oui. Je me demande ce qu'il en pensait. D'ailleurs, il va très bien avec le tableau que vous vouliez me montrer, qui est le bal masqué à l'opéra, avec toute cette sarabande de haute forme. Terrible.
Oui, c'est comme un enterrement.
Ouais.
Une fête à la fois.
C'est un enterrement, mais... enfin, les dames sont très peu dans des poses d'enterrement.
C'est la société de Manet, ça. Tout est là.
Oui, c'est son monde.
Le nom de Manet, c'est une toile de 83.
Oui, c'est un diptyque, hein. C'est un diptyque, donc il y a la pose, et puis ça, c'est le nom de Manet, c'est ça, ouais. Bah oui, c'est le nom de Manet, c'est quoi, ce que c'est le truc de Duras, c'est le nom de Venise dans Calcutta désert, c'est un nom, quoi, c'est le nom d'un lieu, parce que Manet, c'est plus un lieu, ça devient... Parce que la peinture, c'est pas tellement du côté de l'histoire, la peinture, finalement, on peut la mettre du côté de la géographie, donc on dit que les peintres sont des territoires, comme ça. Donc Manet est un territoire, donc je rentre dans le territoire de Manet, donc c'est le nom de Manet dans le nom... À l'époque, c'était Actéon, donc c'était moi. Donc c'est le nom de Manet dans le nom d'Actéon. Donc c'est écrire... C'est des approches d'immigrés, ça. C'est moi qui va immigrer dans le territoire de Manet. Mais ça nous permet de voyager assez bien, quoi. Tout ça. Enfin, on voyage de territoire en territoire, de toute façon.
Et là aussi, c'est un voyage dans Manet, une traversée du territoire de Manet.
Ben c'est d'être entre deux mondes, quoi. L'histoire de la pose, c'est deux mondes qui sont adjacents, contigus, avec lesquels on est obligé de faire, de toute façon. Donc Manet, comme c'est une pièce de jonction, c'est entre la peinture classique et puis la peinture moderne qui n'est pas encore... là, qui est annoncé par Courbet un peu, par les Barbizon et tout ça, quoi. C'est pas encore là complètement. Mais Manet comprend vite cette intenabilité de position. Il comprend très très vite ça. Je pense qu'il comprend. Parce que je crois qu'à la fin de sa vie, on lui coupe une jambe, je crois.
Oui, très concret.
Je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que si Goya devient sourd, c'est pour une raison. Il devient sourd par rapport à Napoléon, il devient sourd par rapport à l'Espagne, il devient sourd par rapport à beaucoup de choses. La jambe coupée de Manet, c'est la même chose que le suicide de Van Gogh, ou c'est la même chose que l'internement d'Artaud. C'est-à-dire qu'il y a des raisons pour ça, pour qu'on lui coupe la jambe. C'est cette vitesse du monde qui va arriver, qu'il pressent, qu'il n'arrive plus à contenir. Parce qu'il termine en faisant quoi ? Il termine en faisant des bouquets de fleurs. Donc, c'est la chose la plus légère qui soit, le bouquet de fleurs, de toute façon.
Ah oui, je n'avais pas vu le sécateur.
Qui est coupé d'ailleurs.
Ah oui, le sécateur. Bon, ça devrait être un effet décoratif parfait, attendu, deux fleurs. Et puis c'est pas ça. On a deux taches blanches, blanches roses délicates, placées au centre du tableau. Je dirais bêtement au centre du tableau. Et puis le tableau respire complètement. C'est-à-dire il a inventé quelque chose dont on ne peut pas trouver la trace dans le tableau, mais l'air. En même temps que le tableau. Alors c'est peut-être l'exécution qui l'amène. C'est peut-être la justesse du geste de peindre, le risque du mal fait qui fait apparaître l'œuvre un peu comme avec la fugacité de ce qu'on voit quand on regarde deux pivoines sur une table, on ne les contemple pas, on les voit en passant et on les emporte dans sa tête comme deux tâches comme ça. C'est peut-être ça qui fait que c'est émouvant, ça fonctionne, c'est d'une justesse extraordinaire. La subtilité des gris roses, de la pivoine, des gris jaunes ici. Alors là, c'est tout son plaisir sur le gris et sur le rose. Et après, tout le travail, c'est de tout le travail du peintre. Alors là, peut-être, travail cérébral, c'est comment je vais faire passer ces deux taches blanches sur la peinture en essayant qu'elles ne s'isolent pas comme deux taches idiotes. Mais comment créer ce que Cézanne appellera des passages, voilà, c'est-à-dire faire en sorte qu'un peu de l'objet représenté se trouve à côté. Alors il y a toutes les subtilités sur le sécateur, sur les vers des plantes qui sont très en retrait, les vers des feuilles. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les fonds gris qui fait que, en effet, ça vit en totalité, ça passe. Très difficile, ça c'est sur la limite de l'impossible à faire. C'est la subtilité, c'est que on peut pas trouver on peut pas le dire. Il faudrait dire au milliardième de ton, ça bascule vers la découpe insupportable, où ça n'existe plus, où ça se fond, la pivoine n'existe plus. Et là, c'est suspendu comme ça.
Parce que ce qui est intéressant dans les bouquets de fleurs, c'est les vases. C'est pas tellement les fleurs. Ouais, parce que dans les vases, c'est de la peinture absolue. Dans les fleurs, il y a encore les fleurs. Les vases, il n'y a plus rien. Et donc là, toute la peinture, ce que va devenir la peinture moderne, quoi, c'est-à-dire jusqu'à de Kooning, tout ça, c'est dans les vases. Et c'est quand même assez curieux parce que il y a un extérieur comme ça du monde et puis il y a l'intérieur de la peinture. C'est assez bien montré de toute façon. Ça c'est peut-être moi qui dis ça, mais c'est pas pour rien qu'il y a une différence entre les vases et les fleurs. Sinon il n'aurait pas fait. Il aurait pu prendre des vases opaques. Ce qui l'intéresse c'est les tiges dans le vase. Il y a une solution là.
J'aime beaucoup l'asperge. Ça doit être à la fin.
Adrienne Farbe.
Il y a cette sorte de vague derrière, une petite asperge, et puis les vagues, les mêmes sortes d'ondulations. L'image est tellement juste dans ce format. Ça tombe tellement juste. C'est tellement bien placé. Et aussi le fait qu'il y en a l'impression que le même mouvement se répète à l'éternité dans ces tableaux. Et aussi les touches sont tellement bien choisies. Et aussi c'est vraiment une sorte de géométrie très, très pure, l'asperge. C'est une sorte de verticale et quelque chose de très, très minimaliste en même temps. Et aussi, j'aime beaucoup ce citron qu'elle avait fait. Et aussi, on a aussi l'idée que cette image est tellement parfait pour le format. Les deux sont tellement intégrales. Et le fait qu'on est tellement conscient de l'acte de peindre dans ces deux petits natures mortes. Il y a tellement de vitalité.
Dans l'absolu, les choses sont assez simples. Ouais. Manet, il a bien compris cette histoire d'absolu. Les hommes, les femmes, tout ça, c'est sur la terre pour pas longtemps. Donc, dès qu'on a trouvé ça, après, ça devient extrêmement tendre, hein, tout ça. Je crois. Oui, c'est ça, oui. Je sais pas si c'est cette histoire de tendresse, mais... Il lutte pas. Il ne lutte pas avec les gens qu'il peint. Il lutte peut-être avec la peinture ou arriver à bien. Il a un dessin qui est extrêmement neutre, Manet. Très très neutre. Très très beau. Il cherche pas à faire plus, quoi. Donc il lutte pas. Il lutte pas du tout. Peut-être c'est ça, je sais pas, cette histoire de la force des faibles, quoi. Une espèce de. Il y a un côté comme ça, pas de. Il n'est pas stratégique comme certains grands artistes contemporains, quoi. C'est une espèce de. Manet, c'est peut-être un grand crâne. Le crâne qu'il y a dans les vanités, c'est peut-être un grand crâne, quoi. C'est ça. Une fois qu'on a ça, quoi, ça va à peu près tout, quoi. C'est pas de la peinture, hein. Il y a une chose qui est très belle, c'est ça, là. C'est le Christ. Le Christ mort et les anges. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est ce que je dis du crâne. Du crâne dans la peinture de vanité. Dans le Christ mort aux anges, c'est... Il est devant nous complètement. Il est mort. Quoi. Il est totalement arrêté. Alors c'est peut-être ça. Il avait un tel sentiment comme ça de vie quotidienne, quoi, que il sait très bien que la peinture ça arrête tout. Donc il y a cet écart aussi. Cet écart. C'est le vide. Quoi. C'est peut-être ça le vide. Ça. C'est parce que bon, je sais pas par. Moi, je sais même pas pourquoi je peins, quoi. Ça m'intéresse pas de savoir pourquoi je peins, quoi. C'est peut-être. Je me dis peut-être que je vais trouver la grâce, je sais pas quoi. Peut-être ça qui m'intéresse. Mais... Chez Manet, il y a la grâce, je crois. Voilà.
Manet ou la peinture nue, par Pascal Charpentier, avec Jean-Michel Alberolin, Henri Cueco, Eduardo Arroyo, Adrienne Farbe, Bernard Zurcher et Bernard Noël. Groupe de réalisation, Josette Etier, Yves Baudry et Claude Giovanetti.
Cette émission est disponible en écoute ou podcast sur le site de France Culture. Elle a été diffusée une première fois le 8 juillet 1993 et a été recomposée par Thomas Duterre. La semaine prochaine, Une vie, une œuvre sera consacrée à Mouloudji,